Gironde Mag, le magazine de mon département, numéro 112, octobre, novembre, décembre 2015. Ce magazine, votre magazine, porte les valeurs chères au département de la Gironde. Édito. Cet édito est écrit par Jean-Luc Glaise, président du conseil départemental de la Gironde, conseiller départemental du canton Sud-Gironde.
Nouvelle mandature, nouvelle équipe et nouvelle formule pour votre Gironde Mag. Les rubriques sont revues, la ligne graphique est modernisée, le changement est donc à la fois éditorial et esthétique. Le nouveau magazine sera à l'image de la Gironde, pluriel et ouvert. Ce numéro trace la voie des suivants en mettant en avant les grands projets du département, en présentant ses actions en faveur du quotidien des Girondins. La vie de nos villes, villages et cantons trouve également toute sa place dans ces pages, avec les actualités de grands territoires de la Gironde. Le nouveau Gironde Mag mettra aussi à l'honneur les Girondins qui font notre département, représentants d'associations, producteurs, personnalités marquantes. Pour ce numéro, l'éclairage historique d'un militant associatif sur l'accueil de réfugiés en Gironde, le portrait d'une productrice de safran à Nérigent, le travail d'un cuisinier au collège de Saint-Médard. Agenda culturel, sport, politique publique, histoire, balade, recettes, photos. À chaque sensibilité, sa raison d'entamer la lecture de Gironde Mag. Ce magazine, votre magazine, porte les valeurs chères au département de la Gironde. La solidarité, la proximité, la curiosité, l'innovation. Notre objectif, qu'il vous fasse découvrir la Gironde. Ce département varié, aux richesses multiples qui nous est cher. Je vous souhaite une très bonne lecture et de belles découvertes.
Sommaire, de la page 3 à la page 11, près de chez vous, avec le Libournais, page 3, Médoc et Haute-Gironde, page 4, Bassin, page 6, Porte du Médoc, page 7, Haut-de-Garonne, page 8, Bordeaux, page 9, Graves, page 10, Sud-Gironde, page 11, Force solidaire, de la page 12 à la page 23, avec l'accueil familial, page 12, les collèges, page 15, route recyclée, page 18, covoiturage, page 21, mes mains au service, page 23, de la page 24 à la page 31, à la découverte, tête de Gironde, page 24, histoire, page 26, itinérance, page 28, producteur de Gironde, page 30, enfin, expression politique, page 32, agenda, page 34 et 35, et concours photo, page 36. Près de chez vous, Libournais.
Un spot de glisse au cœur des vignes. Réalisé en 2012 avec le soutien financier du département, le pôle nautique international des Daguets de Libourne est un lieu incontournable de l'aviron et du canoë-kayak de haut niveau. En 2016, deux compétitions nationales se tiendront sur ce site de premier ordre, consacré également au sport pour tous. 5000 athlètes s'affrontent sur l'eau. Rameurs et kayakistes français, étrangers, en équipe régionale ou nationale, scolaire ou universitaire. Ils seront plus de 5000 athlètes à s'affronter sur l'eau paisible du bassin olympique du lac des Daguets à Libourne, au cœur d'une zone naturelle protégée de 150 hectares. En 2016, le pôle nautique organisera à nouveau deux compétitions d'envergure, la Coupe de France des Ligues d'Aviron et le Championnat de France de course en ligne de canoë-kayak. C'est aussi grâce à ces infrastructures de qualité, comme ces salles de préparation physique et de massage, que le site a été retenu comme lieu d'entraînement par les équipes d'aviron françaises et suisses. Sport nautique pour tous. Dans cet écrin de verdure, dominé par sa haute tour d'arrivée en forme de nid d'oiseau, il est fréquent qu'amateurs et athlètes se côtoient. L'autre vocation du pôle nautique est de donner à tous la possibilité de découvrir et de pratiquer l'aviron et le canoë-kayak, mais aussi la voile, le triathlon, la plongée ou encore la pêche, souligne Pascal Vieira, directeur des sports de la ville de Libourne. Nous accueillons donc toute l'année les sections sport, loisirs et handicap des clubs locaux, ainsi que les scolaires et les enfants des centres de loisirs de Libourne. 1900. C'est le nombre de rameurs qui ont participé au championnat de France d'aviron cadets et juniors 2015, organisé sur le bassin des Daguets.
Pour vous, le département agit. Apprendre à nager en Gironde. Cet été, le département a renouvelé et renforcé l'opération Objectif Nage à destination des enfants non nageurs de 8 à 13 ans. 7 plans d'eau en milieu naturel, Austins, Blasimont, Saint-Christoly-de-Blaye, Fontay, Audenge, Arès, Port-Sainte-Foy, ont accueilli des jeunes issus des territoires en déficit d'établissements aquatiques pour un cycle d'apprentissage gratuit de 10 séances. Cette année, avec objectif nage, 331 petits girondins ont pu ainsi acquérir une autonomie et une aisance aquatique.
180 000, la centaine d'activités sportives proposées par les 21 centres Cap 33 a bénéficié à 180 000 girondins cet été. 1100, le département soutient financièrement la pratique sportive de 1100 clubs amateurs. 93 550, l'aide aux clubs amateurs intègre un soutien à la licence sportive de 93 550 jeunes de moins de 18 ans. Du 6 au 8 août, nouveau succès pour Fest Art dans le cadre des scènes d'été avec ses 32 compagnies, 92 représentations et plus de 30 spectacles différents. Le théâtre de rue est bien installé à Libourne. Le département a apporté 27 000 euros à cet événement cette année.
Médoc et Haute-Gironde. Article illustré par 5 photos. Premièrement, le château de la Marque. Deuxièmement, le château d'Arsens et son cuvier circulaire. Troisièmement, les auteurs du livre, de gauche à droite, Jennifer Ribérol, Caroline Borde, Adrienne Baroche, Alain Besky, Claire Steimer et Yanis Suire. Quatrièmement, le château de Barbe, sa chapelle dans les vignes de Palu. Et cinquièmement, la tour de l'Aspic à Pauillac.
Et au milieu coule un estuaire. C'est à une exploration par l'image, une itinérance entre deux rives, que l'ouvrage Estuaire de la Gironde, paysage et architecture viticole nous invite. Cette anthologie est le fruit des résultats de l'étude d'inventaire du patrimoine architectural des communes riveraines de l'estuaire de la Gironde, menée depuis 5 ans par le département de la Gironde, en partenariat avec la région Aquitaine et la région Poitou-Charentes. À la clé, la découverte d'un territoire et la mise en lumière d'un patrimoine viticole tout à la fois renommé et pourtant méconnu. Selon que l'on vive rive droite ou rive gauche de l'estuaire de la Gironde, la vision de ceux d'en face est différente. Ce sont deux mondes qui, apparemment, ne se mélangent pas. Un estuaire pour frontières naturelles, deux rives parallèles. Mais à la lecture de la dernière publication de la collection nationale des images du patrimoine, leurs auteurs nous enjoignent à sillonner l'estuaire, à se rapprocher de ses berges. Une invitation qui répond là au travail de longue haleine conduit en première ligne par le département de la Gironde, celui de Charente-Maritime et le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire, SMIDDEST. Toutes ces dernières années, en effet, de nombreuses actions convergent pour permettre aux Médocains, aux habitants de la Haute-Gironde et aux Charentais de vivre pleinement la mise en valeur de l'estuaire sur les plans touristiques, environnemental et économique. Cet estuaire de la Gironde, c'est celui de la vigne, des noms parmi les plus prestigieux au monde, Bordeaux et Cognac, celui d'appellations et de crus tels que Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, face aux vignobles de la rive droite, Blaye, Côte de Bordeaux, Côte de Bourg et Cognac en Saintonge. Des rangs alignés à perte de vue nous rappellent la présence de la viticulture dans un passé millénaire qui marque dès lors les communes des deux rives, mais également des îles de la Gironde, un monde souvent ignoré. Histoire de cru. L'opposition des deux rives de l'estuaire s'affirme avant tout dans les sites et paysages naturels, mais également dans la différence d'estime depuis le XVIIIe siècle entre ces différents vignobles, ceux du Médoc se démarquant définitivement par leur statut de grand vin, de ceux de la rive opposée. Un fait qui n'interdit pas à la Haute-Gironde de tenir son rang en termes de production viticole. Certes, les grands châteaux et crus prestigieux sont un facteur identitaire, fort de ce territoire, contribuant à sa légitime notoriété. Mais l'estuaire, ce n'est pas seulement des vignobles et des chais d'exception. Ce livre, passionnant, contribue aussi à la mise en lumière de ce que l'on pourrait appeler le petit patrimoine. Un bâti plus modeste, fait de cabanes, de vignes, de pigeonniers, de logements d'ouvriers, de chais, de cuviers et de tonnelleries, qui révèle l'histoire d'un territoire façonné par la culture de la vigne.
Les objectifs de cet ouvrage, aider à comprendre la genèse et l'évolution de ce patrimoine à travers la présentation des domaines, des hameaux et des villages, rendre intelligibles les aménagements et les constructions au service du vin, donner à voir enfin le bâti dans toute sa richesse et sa diversité par le prisme de l'image. Estuaire de la Gironde, paysage et architecture viticole s'adresse à un public large, amateurs éclairés, aussi bien qu'habitants des territoires étudiés. Il donne tout autant à lire qu'à découvrir, et les lumières automnales, dont l'estuaire se fait miroir, ne peuvent qu'encourager à aller à la rencontre de ceux d'en face. Estuaire de la Gironde, paysage et architecture viticole, a été écrit par Alain Besqui et Claire Steimer, service du patrimoine et de l'inventaire région Aquitaine, avec la collaboration de Caroline Borde, Jennifer Ribérol, département de la Gironde, et Yanis Suire, région Poitou-Charente. Les photographies de l'ouvrage sont faites par Adrienne Baroche et Michel Dubot, photographes, service du patrimoine et de l'inventaire région Aquitaine, avec la collaboration de Gilles Beauvarlet, Raphaël Jean, Christian Rome et Evelyne Peria. La cartographie est assurée par Martin Blachek, la maison d'édition du livre Lieu dit, le prix 25 euros.
Estuaire, 26 juin. La nouvelle aire de covoiturage du Fassier à Pugnac est inaugurée. Participation du département, 20 000 euros. Un commerce de proximité ouvre ses portes à Saint-Cyr-de-Canès. Aide du département, 126 317 euros. 73 820 euros, c'est le montant en 2015 du fonds de développement de l'estuaire mis en place par le département et qui permet de soutenir des projets de valorisation du patrimoine naturel et culturel de l'estuaire. 3,336 millions d'euros ont été investis par le département pour la restauration et la mise en valeur de la villa gallo-romaine de Plassac. La région, l'État et l'Europe ayant apporté à la Gironde 419 000 euros au titre de leur participation. Médoc, 26 juin, le salon Sésame, créer, entreprendre et vivre en Médoc. À l'Espar Médoc, rencontre un beau succès, légitimant les ambitions de reconquête de tout un pan de l'économie médocaine. Le département a attribué une subvention de 5 000 euros au club des entrepreneurs du Médoc pour l'organisation de ce salon.
Le bassin.
Ces violences conjugales que l'on tait. En moyenne en France, 13 femmes meurent tous les mois sous les coups de leur conjoint. Un fléau qui touche tous les milieux sociaux, économiques et culturels. Le département aide l'association Solidarité Femmes Bassin, présidée par Joseph Mercier, à accompagner les victimes de violences conjugales. Mission première. Libérer la parole de ces femmes qui vivent dans la peur et la honte. Un choc. Elle ne s'attendait pas à ça. Pendant 6 ans, Joseph Mercier a présidé la Fédération nationale Solidarité Femmes. Arrivé sur le bassin d'Arcachon pour passer sa retraite, on la sollicite pour des cas de violence conjugale. Je me suis rendu compte que de plus en plus de femmes se sauvaient la nuit pour trouver refuge dans une voiture ou une cabane de pêcheurs. Les sévices conjugaux ne touchent pas que les milieux défavorisés. Ce beau bassin dissimule aussi de gros problèmes. D'abord, briser le silence. En 2012, elle installe l'antenne de l'association Solidarité Femmes Bassin à Lenton. Aujourd'hui, 12 bénévoles et 6 accompagnantes prennent soin des 57 adhérentes. Des femmes que leurs enfants ou des parents insultent, harcèlent, frappent. Souvent, elles ont honte de venir témoigner. Pousser la porte de la gendarmerie est impensable. Mais nous ne pouvons aller les chercher contre leur gré. D'abord, il faut briser le silence. Nous sommes formés à l'écoute, au soutien et à l'accompagnement des victimes. L'association qui a reçu du département une subvention de 5 000 € cette année a tissé des liens étroits avec une psychologue, des assistantes sociales, les services sociaux du pôle territorial de solidarité du bassin, les centres communaux d'action sociale, CCAS, et quelques gendarmeries du bassin. Le département nous apporte une aide financière et nous aide à entretenir notre réseau. C'est un facilitateur d'échanges, reconnaît la présidente. Une aide qui lui permet aujourd'hui de recruter une travailleuse sociale. Joseph Mercier pense déjà à la prochaine étape. Trouver des logements de mise à l'abri gratuits, moins déshumanisants qu'un hôtel. Nous comptons sur l'esprit de solidarité des élus ou d'un particulier. Le message est passé. L'adresse, Solidarité Femmes Bassin, 44 bis Avenue de la République, 33 183 Lanton, téléphone 06 89 61 49 10, site internet www.solidaritéfemmesbassin en un seul mot avec femme au pluriel .com.
7 septembre, démarrage du chantier du futur parking de covoiturage à hauteur de l'échangeur numéro 2 de l'autoroute A63 entre Mios et Biganos sur la route départementale 3. Sous maîtrise d'ouvrage départemental, cette opération cofinancée par le département et la communauté de communes du bassin nord, entre parenthèses COBAN, donnera naissance à l'un des plus grands parkings de covoiturage à ce jour, fort de 80 places.
Porte du Médoc.
Sur les planches pour rompre la solitude. Moment de fierté et d'émotion, fin juin, avec la présentation au Globe Théâtre du spectacle SOS-SMS, écrit, mis en scène et interprété par des travailleurs sociaux et des habitants du canton du Bouscat. L'aboutissement d'un projet mené au sein de la MDSI depuis 3 ans par Lydie Bouissou, Hélène Lancel et Bertrand Manzano, travailleurs sociaux. Prendre du temps pour soi, s'amuser, même quand la vie devient compliquée. C'est le pari que fait la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion, MDSI, du Bouscat, qui propose aux habitants intéressés de retrouver confiance et de créer du lien en montant sur les planches. Les Cris des Protons est le nom de cette troupe composée de travailleurs sociaux et de résidents du canton. Ensemble, ils ont créé un spectacle écrit et mis en scène avec l'aide de Monique Garcia, metteuse en scène. Vers l'extérieur. L'expérience a débuté en 2012 avec la mise en place d'ateliers théâtre dans le cadre des projets de développement social et culturel. La MDSI du Bouscat avait alors répondu à une demande du groupe d'aller à la rencontre d'équipes artistiques et de s'essayer à une pratique théâtrale. Pour les habitants, cela correspondait à un besoin de se tourner vers l'extérieur, de se décentrer de leurs problèmes et de tisser du lien, souligne Bertrand Manzano, assistant social et comédien, qui a accompagné la démarche depuis ses prémices. Spectacle doux amer. La troupe a bénéficié tout au long de son évolution du soutien technique et des conseils des professionnels du Globe Théâtre et de l'IDAC. Elle a écrit et mis en scène la pièce SOS-SMS qui traite de communication et de solitude. Les participants se sont emparés du sujet des technologies, pointe Hélène Lancel, qui encadre le projet. Ils ont voulu décrire ces outils de communication de plus en plus nombreux, mais qui laissent les gens toujours aussi seuls. De ce constat doux amer, le groupe a tiré une pièce pleine d'humour qui épingle le dialogue parfois compliqué au sein même des familles. présentée au public le jeudi 25 et le vendredi 26 juin sur la scène du Globe Théâtre à Bordeaux, ce spectacle gratuit et familial a fait salle comble. La plus belle récompense pour les comédiens amateurs qui devraient reprendre les ateliers dès cette rentrée avec un nouveau projet qu'ils co-construiront.
280 000 euros. Le département a apporté une aide directe en matière de solidarité de l'ordre de 280 000 euros aux citoyens de ce territoire en 2015. Sur les 36 MDSI du département, retrouvez celle qui est la plus proche de votre domicile sur www.gironde.fr/MDSI. Pour vous, le département s'engage. 19 septembre, la ville d'Eysines présente sa saison culturelle 2015-2016. Découvertes, rêves et facéties sont les maîtres mots de ce programme. Théâtre, spectacle vivant, chansons séduiront le public. Parmi les artistes attendus, Barbara Carlotti, Art Mango, le Cirque Bouffon, etc.
Hauts de Garonne.
De ce nom au Portugal, jeunes et policiers font le trait d'union. Lieu de rencontre entre les enfants et la police, le centre de prévention et de loisirs de ce nom organisait cet été un échange entre jeunes français et portugais repérés dans le cadre de l'aide éducative. La démarche originale est le fruit d'un partenariat entre la ville de ce nom, les services de la MDSI, la police nationale et les services de la ville d'Arcos de Valdeves au Portugal. Elle préfigure un dialogue entre pays sur les pratiques de protection de l'enfance. À l'arrivée du bus, quand sonne l'heure des adieux, les embrassades sont mouillées de larmes. Il y a eu une grande sincérité dans cet échange. C'est ce qui nous indique que le projet est un succès, murmure Jean-Pierre Bonodin, directeur du Centre de prévention et de loisirs des jeunes, CPLJ, de ce nom. Avec 10 animateurs policiers, de la direction de la sécurité publique ou de la police nationale, ils travaillent toute l'année sur l'éducation à la citoyenneté. C'est eux qui ont organisé cette année la rencontre entre les enfants repérés dans le cadre de la prévention des risques sociaux de la ville de ce nom et de la commune portugaise d'Arcos de Valdeves dans le nord du pays. Prévention et protection de l'enfance. 12 jeunes senonais, âgés de 11 à 17 ans, sont partis en avril pour une semaine à la découverte de cette petite ville et de son magnifique cadre naturel. Hébergés en auberge de jeunesse, ils ont été accueillis par un autre groupe d'enfants, la moitié d'entre eux étant séparés de leur famille. Puis, début juillet, ce sont ces jeunes portugais qui, à leur tour, ont fait escale à ce nom, avant de se rendre quelques jours sur le bassin d'Arcachon. Soutenu par la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion, cette action originale s'inscrit dans les missions de prévention et de protection de l'enfance du département. Apprendre à vivre ensemble. Pour Fernanda Alves, adjointe chargée de la prévention à Arcos de Valdeves, l'initiative a porté ses fruits. Nous souhaitons travailler autour du lien social, de la mixité et de l'ouverture culturelle. Ce projet était l'occasion pour nous ados d'apprendre beaucoup sur le vivre ensemble. Ophélie, 17 ans, un des piliers du groupe, confirme « On a fait des rencontres et on a noué des liens très forts, car certains des jeunes au Portugal avaient des histoires difficiles et se sont confiés rapidement. Ça m'a fait plaisir de les revoir ici. » Afin de prolonger ce beau projet, un groupe de Portugais pourrait être à nouveau accueilli l'an prochain à l'occasion de l'Euro 2016.
Article illustré par des photos d'une journée sportive sur le lac de Caso avec des jeunes senonais et portugais prenant la pause.
6 juillet. Le chantier de restructuration du collège Claude Massé à Ambarès-et-la-Grave est lancé. Le département investit 13,7 millions d'euros pour la rénovation complète de l'établissement pouvant accueillir 800 élèves. Livraison prévue pour la rentrée scolaire 2016.
Bordeaux. Trois mois durant, l'ancien commissariat Castéja rue de l'Abbé de l'Épée, à Bordeaux, a accueilli l'exposition collective Transfert. Le site, désormais propriété de Gironde Habitat, réunit les œuvres d'une trentaine de street artistes. Loin des tags et des graffitis, le street art s'impose comme une expression artistique majeure.
Toutes ces dernières années, le street art a quitté la clandestinité pour gagner une meilleure réputation, mobilisant médias et acteurs culturels. Il offre désormais au regard de véritables œuvres, figuratives ou abstraites, sur les façades des immeubles de nos villes. Le collectif Transfer, c'est une trentaine d'artistes, dont deux collectifs. Leur terrain d'expression habituel, la rue, les murs, les espaces urbains où ils peignent, graffent et montent des installations au grand plaisir d'un public grandissant. Depuis 2011, l'équipe de Transfer, animée par le même idéal d'un art accessible à tous, propose une exposition annuelle de ses travaux en invitant, pour l'occasion, d'autres street artistes d'ici et d'ailleurs. Joan, du groupe Peinture Fraîche, explique « Nous avons proposé nos premiers rendez-vous sur le site des Vivres de l'Art à Bacalan, où une partie des membres de Transfer a l'habitude de travailler. Mais pour notre 5e édition, nous avons voulu sortir du quartier et investir un lieu public. Une rencontre avec Sigrid Monnier, directrice de l'office départemental Gironde Habitat, permet de donner naissance à une exposition estivale des plus réjouissantes. Martine Jardinet, présidente de l'office départemental d'habitat de la Gironde, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'habitat, du logement et du développement social, ponctue. Avec l'acquisition de Castéja, nous allons monter un ambitieux programme d'habitat social, mais plus largement donner naissance à un site qui doit contribuer à renforcer la mixité sociale à Bordeaux. L'initiative culturelle de Transfer préfigure cet état d'esprit. Joan s'enthousiasme. L'ancien commissariat Castéja s'est imposé. Gironde Habitat a accepté qu'il soit investi avant de lancer le projet de logement et d'école lié à l'aménagement du quartier. Nous avons eu les clés au mois d'avril et nous avons commencé à préparer l'exposition. Les espaces offraient de nombreuses possibilités, comme celui de l'ancienne chapelle. Le résultat est bluffant. Transfert, le street art au commissariat. L'explosion du street art. Pied de nez. Le commissariat, qui aurait pu accueillir autrefois un peu plus rudement graffeurs et street artistes, a donc reçu un événement multiforme. Œuvres sur simèse, installations et vidéos, concerts dans la cour intérieure. L'exposition Transfer aura accueilli 3500 visiteurs. L'androïde, du collectif Les Parpeintres, s'en réjouit. Le street art touche un public de plus en plus important et l'exposition médiatique de notre travail nous a permis aussi d'investir d'autres espaces urbains. Joan ajoute « Il y a même des touristes qui préparent leur séjour en fonction des œuvres qu'ils pourront découvrir sur les murs. » Un engouement qui touche les acteurs publics, puisque Transfer a bénéficié du soutien, entre autres, des collectivités locales, dont le département, qui a accompagné financièrement les animations dédiées aux jeunes publics.
Article illustré par une photo de Joan et l'androïde, ainsi qu'une œuvre de Sissi Macazotte.
Pour vous, le département s'engage. 1,730 millions d'euros. Le département subventionne à hauteur de 695 000 euros au titre de la vie artistique et de 1035 millions d'euros au titre de la culture, les organismes et structures associatives à Bordeaux. Précisons que nombre d'associations mènent une action qui déborde largement du cadre de la ville. 11 septembre, le nouveau collège Cheverus est inauguré. Situé dans l'hypercentre, l'établissement parfaitement adapté à son environnement urbain accueille 446 collégiens depuis la dernière rentrée. Le département a intégralement financé cette opération. 12 400 000 euros ont été nécessaires pour ériger ce collège flambant neuf.
Grave.
Campus aux échos du reggae. D'abord nomade, le reggae Senska a posé ses bagages sur le campus de Bordeaux, entre Talence et Pessac. Plus grand événement du genre en France, pionnier des manifestations et co-responsable, le festival déborde du cadre des passionnés et sait faire école sur l'année. Ses maîtres d'œuvre, avec Music Action Médoc, ne ménagent ni leur peine, ni leur passion. Fred Lachaise est un directeur heureux. La 18e édition du Reggae Sun Ska Festival s'est déroulée à la perfection. Du 7 au 9 août, Malgré la grisaille du climat, le domaine universitaire de Bordeaux a vibré aux échos de musique gorgée de soleil, entre ska et reggae, sons métissés et cuivrés. Cette année, Jimmy Cliff, Alpha Blondie ou encore Groundation et Stephen Marley, en vedette, donnaient un avant-goût d'une affiche riche de nombreux talents. Élisant domicile à Montalivet, puis à Cussac-Fort-Médoc, avant de rejoindre Sissac et Saint-Sauveur, la manifestation s'installait à Pauillac en 2011. Les événements climatiques de l'été 2013 nous ont contraints à changer de cap, commente Fred Lachaise. Une fois la page tournée, son équipe s'est donc orientée vers le campus de Bordeaux, où il a fallu reconquérir le public. L'esprit territorial. Musique, fête, attitude cool. Il s'agit aussi pour l'équipe de salariés et de bénévoles engagés dans l'aventure d'aller au-delà des clichés. Les amateurs de reggae ont un look souvent visible, mais ils sont aussi porteurs de valeurs, comme le respect de la nature, le pacifisme et un goût du partage. La Gironde peut certainement s'enorgueillir de contribuer à l'organisation d'un tel événement autour du reggae qui trouve ses racines dans le rejet de la tyrannie, dans l'engagement pour une juste répartition des richesses à travers le monde et le refus de l'oppression. Le reggae sunska soutenu par le département est, de plus, parmi les premières manifestations à s'être investi dans une démarche éco-responsable, veillant à la propreté du site avant, pendant et après les concerts. Quant au Médoc, Fred Lachaise précise « Nous envisageons clairement notre retour sur le Médoc, à condition d'y mener un projet sur le long terme. » La longévité, son équipe y croit, puisque tout au long de l'année, Music Action Médoc, le groupement d'intérêt économique auquel adhère le Reggae Sunska Festival, développe des projets et emploie 14 personnes à temps plein. Le staff organise et travaille à l'essor de manifestations culturelles locales, mais aussi sur le terrain de l'édition musicale d'artistes à tendance groove avec le label Sound Beats Records. Le département accompagne également Music Action en Médoc avec une subvention de 5 000 euros pour conforter son implantation et ses actions à l'année, notamment en Médoc.
Article illustré par une photo de Jimmy Cliff et une autre photo des spectateurs d'un concert.
653 720 euros votés pour les scènes d'été 2015 dans lesquelles s'inscrit le reggae Sunscat. 46 000 euros, c'est le montant de la subvention départementale versée au reggae Sun Ska. 800 bénévoles, 14 emplois à l'année, entre parenthèses, au sein du GIE Musique Action Médoc. Fermez la parenthèse. 48 000 spectateurs en 2015, plus de 80 groupes invités. 24 juillet. Un incendie de grande ampleur se déclenche sur les communes de Saint-Jean-d'Illac et Pessac. Le département est à l'origine d'une table ronde pour renforcer la prévention des incendies.
Sud Gironde.
Objectif emploi. Zone d'équilibre. Vous trouvez peut-être ce terme abstrait. Pourtant, il recouvre une réalité qui constitue la clé du développement des territoires girondins. Autrement dit, une zone d'équilibre, impulsée par le département, est un atout essentiel pour créer des emplois au plus près de chez vous. Exemple en Sud-Gironde. Trouver un travail, pouvoir créer son entreprise près de chez soi, c'est tout à la fois vivre plus sereinement, s'assurer un quotidien simplifié en termes de déplacement, avoir un rythme de vie familial plus aisé et être auprès des siens. Partant de cette réalité, de ses besoins unanimement partagés, le département a lancé un appel à projets afin de conforter le dynamisme de la Gironde tout en tenant compte des particularités de chaque territoire. Dans le Sud-Gironde, les deux communautés de communes, celle du Bazadé et celle de Sud-Gironde, ont saisi cette opportunité pour créer une zone d'équilibre. Ainsi, lancées dans cette nouvelle dynamique, le 30 juin dernier, elles ont signé avec le département une convention. Cette signature a scellé un partenariat respectueux de la place de chaque collectivité et de l'identité aux multiples facettes de ce vaste canton du Sud-Gironde, à tout Sud-Girondin. Si les territoires Langonais, Bazadais, Cap-Sylvain partagent des atouts communs, tels des espaces fonciers, la proximité avec des axes routiers et autoroutiers, et surtout la vitalité des habitants, chacun affirme des potentiels plus spécifiques dans l'agroalimentaire, la mécanique de précision ou encore la filière bois. Au travers de la zone d'équilibre et avec le soutien du département en matière d'ingénierie, le Sud-Gironde va pouvoir conforter ses potentiels, sa force d'innovation. Ce soutien du département constitue la concrétisation de sa volonté constante, permettre à tous les territoires girondins de créer de l'emploi, d'attirer des investissements. En effet, l'attractivité de la Gironde ne saurait se résumer à celle de sa métropole. Plus largement, le sens véritable des politiques départementales, c'est d'être utile à tous les Girondins.
Article illustré d'une photo de la Sotomeca chaudronnerie industrielle Bazas, d'une photo de Sweet Valentine pâtisserie à Langon, et d'une photo de Falière, nutrition longue conservation à Cap-Sieux.
La zone d'équilibre du Sud-Gironde, Cap-Sieux, 31,5 hectares, dans le cadre d'un projet de création d'un parc d'activités. Mazère, 12,7 hectares de foncier aménagé et commercialisable. Bazas, 51 hectares avec un fort potentiel foncier. 1er octobre, signature du contrat territorial d'éducation artistique et culturelle à La Réole. L'État, via les affaires culturelles, entre parenthèses DRAC, l'éducation nationale et le département unissent leurs efforts pour conforter l'éducation artistique et culturelle sur le territoire des communautés de communes du Réolais en Sud-Gironde et du Vallon de l'Artolie.
Force solidaire, accueil familial, bienvenue à la maison. L'accueil familial, solution originale, qu'encourage fortement le département.
L'accueil familial offre aux personnes âgées ou handicapées une alternative à l'hébergement en établissement. Dans notre département, ce dispositif se développe et se professionnalise. Le principe fonctionne simplement. En échange d'une rémunération, un accueillant agréé reçoit chez lui, en pension, une à trois personnes âgées. Nicole Archambault, une accueillante parmi les 190 familles qui détiennent aujourd'hui l'agrément en Gironde, a accepté de témoigner de son expérience. Ces pensionnaires, mais accueillis comme elle les appelle avec bienveillance, sont trois, deux femmes et un homme. À Régnac, non loin de Saint-Savin, ils vivent ensemble dans la grande maison de Nicole et de son époux. On comprend immédiatement dans sa chaleur et son enthousiasme qu'elle partage avec ses pensionnaires bien plus que sa maison. On recrée des sortes de familles. Espace vital. Âgée de 64 ans, sa vie a été déjà bien remplie. Elle pratique ce métier d'accueillante depuis 2008. De plein pied et pourvue de larges pièces, son habitation facilite la circulation des fauteuils roulants. La notion d'espace vital importante passe par des détails pratiques. Par exemple, veiller à ce que personne ne soit dérangé par le volume de la télévision de l'autre. Chacun participe en fonction de ses difficultés et de sa vitalité. J'ai eu des pensionnaires avec qui on défaisait les fruits, les haricots. Monsieur Veuil voulait éplucher les pommes de terre. Avec son arthrose, il n'a pas pu, mais il se rase seul le matin. Pour un accueil familial réussi, l'équilibre s'organise ainsi entre une vie commune et une attention individualisée, des moments de partage et le besoin de tranquillité. On recrée des sortes de familles. Soutien et professionnalisation. L'accueil familial est encadré. Participation à des formations, à des réunions d'information. visite à domicile des travailleurs médico-sociaux du département. Ce suivi protège chaque partie d'éventuels problèmes. Nicole Archambault précise, les personnes demandent de la disponibilité et une présence continue. On ouvre sa maison aux autres, à l'accueilli, à sa famille, aux professionnels de santé. Pour elle, il ne s'agit pas d'un dispositif d'urgence. Il faut se rencontrer avant. C'est un accord entre les deux. Échange. Janine Yona Montalan a 85 ans et habite depuis janvier 2015 chez Nicole. Elle raconte sa nouvelle vie avec beaucoup de spontanéité. « Parfois, c'est vrai, j'ai la nostalgie. J'ai travaillé dur pour avoir ma propre maison qui était belle. Mais maintenant, chez moi, c'est ici. Je suis bien. D'ailleurs, en partant de l'hôpital où j'ai dû rester un peu, j'ai dit « je rentre chez moi ». Nicole Archambault sourit en entendant son accueilli s'exprimer ainsi. La conversation entre elles se poursuit. Un bébé hirondelle blessé qu'elles ont sauvé. Le petit-fils de Janine a récupéré l'assiette des crêpes faite pour sa grand-mère. La relation entre les deux femmes est teintée de complicité. « C'est la famille qu'il me fallait », confirme Janine. Quand elle a eu ce malaise, il y a quelques semaines, Nicole a enclenché immédiatement une prise en charge vers l'hôpital avec le médecin. Rassurant, sécurisant, l'accueil familial, à l'image de Nicole et Janine, s'avère être avant tout une histoire de personnes qui partagent un moment de vie.
Cet article est illustré d'une photo de Madame Nicole Archambault, accueillante familiale depuis 2008, et de Madame Janine Yona Montalan, accueillie justement chez Nicole.
Grand âge et handicap. Les chiffres. À ce jour, 307 personnes âgées sont accueillies à domicile. 62 personnes handicapées accueillies à domicile. Plus de 185 millions d'euros, c'est le budget annuel que le département consacre aux personnes âgées, toutes actions et aides incluses. 189 millions d'euros de budget global concernent les personnes handicapées, toutes aides confondues. Le Bureau des accueillants familiaux est votre interlocuteur. Que vous soyez à la recherche d'une famille d'accueil ou que vous souhaitiez accueillir une personne à votre domicile, téléphone 05 56 99 34 07. Direction chargée des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, www.gironde.fr/solidarité.gironde.
Venir accueillant familial, mode d'emploi.
Accompagner le quotidien. Quelques qualités essentielles sont nécessaires. Patience, écoute, dialogue, tolérance et confidentialité. Vous exercerez là un vrai métier, gratifiant et solidaire, pour lequel vous serez rémunéré. 4 mois suffisent à l'instruction de votre dossier. Il vous faut demander l'agrément auprès du président du conseil départemental par écrit, constituer un dossier d'évaluation de vos conditions matérielles d'accueil. Vous devez vous rendre disponible pour des évaluations sociales et des entretiens psychologiques. Vous serez formé avant votre prise de poste. Le Bureau des accueillants vous proposera régulièrement des formations complémentaires et des réunions de secteur.
Article illustré par une photographie d'Edith Moncoucu, en compagnie d'une résidente du Jardin des Provinces à Pessac, Germaine Cantaloube.
Point de vue. Le département déploie un grand nombre d'aides et de services pour que les personnes âgées et les personnes handicapées restent le plus longtemps possible chez elles. Nous avons la volonté d'accompagner leur quotidien afin de leur permettre une réelle intégration dans le mouvement de la société. L'accueil familial propose de partager, d'échanger des expériences de vie, de donner sens à l'intergénération. Accueillants et accueillis en sont communément enrichis. Edith Moncoucu, vice-présidente chargée de l'autonomie, du handicap et de la politique de l'âge.
Collège du terroir girondin dans les assiettes.
Favoriser la qualité alimentaire, la santé, l'économie locale. Le département encourage depuis longtemps le développement des productions girondines. Mettre du local dans nos assiettes présente beaucoup d'avantages. Et si nous pouvons ajouter du bio, c'est encore mieux. De son côté, le collège François Mauriac de Saint-Médard-en-Jalles propose 20% de nourriture bio sur son site de restauration. Aux manettes, une équipe volontaire est impliquée. Au fourneau, Patrice Tellier, un cuisinier aux doigts d'or et à la passion communicative. Un cuisinier hors pair. Venu à la cuisine sans vocation particulière, après une carrière dans une entreprise leader de la restauration collective et divers lycées du département, Patrice Tellier s'en est peu à peu fait une passion. Mieux, une philosophie de vie. Opter pour le bio et les circuits courts, c'est respecter la saisonnalité, la biodiversité, l'environnement. Pas de pesticides, moins de transports. Favoriser la qualité alimentaire, la santé, l'économie locale, l'emploi et le savoir-faire. Valoriser le terroir, mais c'est aussi une façon de se comporter, de dire merci, de ne pas gaspiller.
Tout fait maison. De 6h à 11h du matin, 5 jours par semaine, Patrice Tellier relève un vrai défi. Unanimement plébiscité, ce chef de 56 ans a pourtant le succès modeste. Ma force, c'est mon équipe. Ma seconde et mon aide de cuisine, deux personnes formidables. 2,86 €, le repas, le prix juste. Le coût réel d'un repas estimé à plus de 8 € est subventionné à hauteur de 65% par le département qui consacre chaque année plus de 40 millions d'euros aux 8 millions de repas fabriqués. Avec cette mesure forte, le département a réaffirmé sa volonté d'égalité d'accès à la demi-pension. Nous voulons que les enfants puissent profiter au moins d'un vrai repas équilibré par jour et que le déjeuner contribue à leur éducation à la santé alimentaire, précise Alain Marois, vice-président chargé des collèges. Le goût, remède anti-routine. Grâce à un partenariat intelligent avec un producteur des Innes qui lui fournit l'essentiel de ses fruits et légumes, Patrice, le cuisinier, obtient toute l'année des pommes à 1,12 € le kilo et la saison venue des fraises du Lot-et-Garonne à 3,50 € le kilo. Sa créativité fait le reste. « On n'aime pas la routine », traduit-il humblement. Se fournir localement n'est pas plus cher. Éric Champoux, gestionnaire du collège, sait trouver les économies. Privilégier les circuits courts et traquer le gaspillage, sensibiliser les élèves à ces enjeux, les inciter à choisir des portions en accord avec leur appétit, les impliquer dans l'élaboration du contenu de leur assiette, comme s'y emploie notre commission menu mensuelle. Les collégiens contre le gaspillage. À la sortie du réfectoire, impossible de le manquer. Le gâchis-pain. Il affiche quotidiennement le volume du pain gaspillé. Chaque jour, le pain est pesé, puis traduit en nombre de baguettes perdues, en euros gaspillés, mais aussi convertis en équivalent jeux vidéo ou smartphone.
Climat, des routes girondines recyclées. Dans quelques semaines, Paris accueille la COP21, conférence climatique d'ampleur dont tous les observateurs espèrent des résultats concrets. Bien en amont de cet événement, le département s'est engagé pour réduire les effets du réchauffement climatique. La preuve, avec les dispositions prises pour conduire des chantiers routiers, où l'on recycle les matériaux sur place, tout en modernisant et en sécurisant les routes.
Engagement numéro 1. Préserver les matériaux des carrières. Les matériaux géologiques, extraits du sol ou excavés pour rénover une route, doivent être réutilisés. D'ores et déjà, les terrassements de remblais sont recyclés sur les chantiers à près de 80%. Rien ne se perd, tout sert. La quantité d'enrobés de bitume recyclés réutilisés sur nos chantiers dépasse les 90%. Bitume 20%, moins gourmand. L'enrobé bitumineux utilisé pour faire les routes en Gironde a baissé de 30 degrés en température. Un choix qui permet une économie d'énergie de 20% et une diminution d'émissions de gaz à effet de serre de 30%. Sous le bitume, le recyclage. Les déchets ultimes produits par les incinérateurs d'ordures ménagères sont utilisés en sous-couche des routes, entre parenthèses mâche-fer. Il en va de même des graves naturelles qui proviennent de la déconstruction de divers ouvrages en béton, entre parenthèses ponts, arches, etc. Objectif, insertion. Sur nos chantiers routiers, le nombre d'heures travaillées par les personnels en voie d'insertion atteint depuis 5 ans plus de 110% de l'objectif. Mieux, plus de 90% des ouvriers recrutés en insertion ont trouvé ou trouvent, par ce biais, un emploi pérenne.
Des routes et des hommes. Article illustré par une photographie du chantier de la route nationale 1089.
6500 km composent le réseau routier départemental, dont 350 km de pistes cyclables qu'il faut entretenir, sécuriser et rénover régulièrement. 50 millions d'euros sont investis chaque année, hors opérations exceptionnelles ou d'envergure, pour l'entretien et la sécurisation de votre réseau routier et celui de vos pistes cyclables. 6 centres routiers départementaux, entre parenthèses CRD, permettent au département d'être efficace au plus proche des lieux de vie, de travail et de circulation des Girondins.
Point de vue. En lançant un chantier routier, nous avons le souci constant de veiller à la préservation des ressources naturelles, d'économiser l'énergie et de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que traduit la convention d'engagement volontaire que nous avons signée en 2010 aux côtés des entreprises routières et nous avons été rejoints par la métropole en 2014. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut agir très concrètement. Alain Renard, vice-président chargé de la préservation de l'environnement, de la gestion des risques et des ressources et des infrastructures routières.
Top 5 des grands chantiers sur les 7 dernières années.
Route départementale 1215.
Entre Castelnau-de-Médoc et Soulac, 8 millions d'euros de 2008 à 2011. 513 586 mètres carrés de chaussées retraitées, trafic, 10 000 véhicules par jour.
Route départementale 5.
Entre Castelnau-de-Médoc et Lenton, 3 millions d'euros en 2008, 195 000 mètres carrés de chaussées retraitées, trafic, 5 600 véhicules par jour.
Route départementale 1089.
Entre Pomerol et Saint-Médard-de-Guizières. 2,3 millions d'euros de 2010 à 2015. 122 490 mètres carrés de chaussées retraitées. Trafic, 11 700 véhicules par jour.
Route départementale 1113.
Entre Lamotte-Landeron et Langon, 1 500 euros en 2011. 83 300 mètres carrés de chaussées retraitées. Trafic, 7 150 véhicules par jour.
Enfin, route départementale 1250.
Entre Cestas et Marcheprime, 1 200 000 en 2011, 60 385 mètres carrés de chaussées retraitées. Trafic, 6 150 véhicules par jour.
En voiturage, en voiture avec Frédéric et les autres. Article illustré par une photographie de Frédéric de Lorenzi au volant de sa voiture, avec la légende « Le partage des frais d'essence, gagnant-gagnant ».
Partager sa voiture le temps d'un trajet pour réduire ses frais de transport. Cette pratique du covoiturage a déjà séduit près de 9 millions de Français, essentiellement pour de longs trajets. Le covoiturage de proximité, en Gironde, facilité depuis mars dernier par le site internet covoiturage.transgironde.fr, devrait aussi ravir de nouveaux adeptes. Comme Frédéric de Lorenzi, qui propose de vous conduire dans sa voiture chaque jour de la semaine pour aller revenir de son lieu de travail. Rencontre. Si 20% des conducteurs girondins covoituraient, les bouchons de la rocade sauteraient. À chaque fois, tout commence par une histoire de voiture, évidemment. D'abord, il y a eu celle qui a provoqué le déclic, le premier covoiturage de Frédéric de Lorenzi. Cet Andernosien voulait voir une voiture d'occasion, mise en vente par un particulier en Bretagne, et il ne savait pas encore s'il allait acheter et revenir avec ce nouveau véhicule. Il se lance alors et s'inscrit sur un site internet de covoiturage pour faire ce premier voyage. Premier d'une série qui promet encore d'être longue. Car le trentenaire est conquis par le concept. Je voyais le covoiturage comme le lot des babacools, commente-t-il. Je ne me sentais pas concerné par la communauté du covoiturage. se charger de communication au sein d'un groupement immobilier, découvre alors la convivialité d'un voyage dans une voiture partagée. C'est bizarre, puisque finalement les passagers ne se connaissent pas, mais ne se comportent pas en étrangers, constate-t-il. Un retour d'ascenseur. Il a fallu un autre coup du sort pour faire replonger Frédéric dans le covoiturage. La révision de son automobile dans un garage loin de chez lui. Et là, il trouvera une solution de proximité soufflée par une collègue de bureau. Le covoiturage local en Gironde. Frédéric De Lorenzi est alors l'un des premiers inscrits sur le nouveau module de mise en relation passager-covoitureur du site internet transgironde.fr. Plus précisément à la page covoiturage.transgironde.fr, lancé par le conseil départemental de la Gironde en mars dernier. Via ce module, il est désormais possible soit de chercher une voiture et son conducteur qui s'apprête à faire le même voyage que vous, soit de remplir votre voiture de voyageur. Pour cette première fois en Gironde, en ce mois d'avril, Frédéric De Lorenzi est passager. Mais depuis cette expérience de covoiturage, 100% girondin, il propose, via le site internet transgironde.fr, d'emmener chaque matin de la semaine trois voyageurs d'Andernos-les-Bains, où il habite, vers le quartier de bord de lac où il travaille. De même, il propose le trajet retour le soir, à la sortie du bureau. Pour lui, c'est le geste qui compte. « Je voulais faire cela pour un retour d'ascenseur, pour rendre service à mon tour », explique-t-il. Si le covoiturage peut aussi être choisi pour faire des économies, Frédéric De Lorenzi, qui propose à ses passagers de participer aux frais du voyage à hauteur de 3 euros l'aller, n'y voit pas une motivation première. 73 aires de covoiturage en Gironde. En covoiturage, le trajet passe plus vite, assure-t-il. Et, jusqu'ici, tous les covoiturages se sont bien déroulés. La Gironde compte 73 aires de covoiturage, zone de stationnement gratuite, desservie à 90% par les transports publics, où se retrouvent les voyageurs et le conducteur. Et pour mettre tout le monde à l'aise, Frédéric a déjà rodé une stratégie pour lancer les sujets de conversation. Météo, bien sûr, mais aussi trafic, circulation, la vie près du bassin d'Arcachon. Pas d'inquiétude donc, assure le nouvel adepte du covoiturage, à transporter de parfaits inconnus. J'ai pu rencontrer des gens au profil très varié et de tous les âges. Un jour, j'emmène un technicien de maintenance en bleu de travail à son atelier. Le lendemain, je dépose une dame en tailleur à son bureau, se souvient-il. Ça en fait des anecdotes à raconter.
Covoituré en Gironde. 2008, le département s'engage dans un partenariat avec l'État, la communauté urbaine de Bordeaux, la ville de Bordeaux, la région Aquitaine et la Chambre de commerce et d'industrie. Une première plateforme de covoiturage est née. 2014. Les institutions impliquées dans cette initiative se mobilisent pour mieux coordonner leurs actions en faveur du covoiturage. Le département est désigné comme chef de file d'un plan d'action partenarial. 2015, 73 aires de covoiturage sont en service, regroupant 1320 places. Situées à proximité d'axes routiers à fort trafic, elles sont réalisées en partenariat avec les communes, communautés de communes, sociétés d'autoroutes et centres commerciaux. Le département a investi près de 500 000 euros pour la naissance de ces aires. 2015, intégré dans le site transgironde.fr, un service est offert à tous les covoitureurs de covoiturage.transgironde.fr.
Point de vue. Le covoiturage local concerne essentiellement des déplacements domicile-travail. Il s'agit de partager sa voiture avec un voisin, un habitant de notre commune, qui va dans la même zone d'emploi que nous. Pourquoi alors utiliser 2-3 voitures quand on peut mutualiser les frais? C'est cette logique que le département veut aider, car moins de voitures aux entrées de la métropole, c'est moins de bouchons. Anne-Laure Fabre-Nadler, vice-présidente du conseil départemental chargée des mobilités.
Memento des services départementaux, informations détaillées en ligne sur gironde.fr.
protection de l'enfance, protection des enfants et des mineurs quand leur sécurité, leur santé sont menacées. Solidarité.gironde.fr.
Santé et prévention. Consultation ouverte à tous, gratuite, y compris pour les mineurs, même sans autorisation des parents. Service de protection maternelle et infantile, PMI, gironde.fr/PMI.
Handicap, prestations financières, accompagnement social ou professionnel, scolarisation. Contact 05 56 99 69 00 et sur mdph33.fr.
Personnes âgées. Pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles, aide et soutien permettant de vieillir en conservant une autonomie, hébergement en famille d'accueil ou en établissement spécialisé, EHPAD, contact, numéro vert, 0800 00 33 33.
Insertion. Favoriser le retour vers l'emploi pour des Girondins particulièrement fragilisés en situation précaire. Insertion.gironde.fr.
Accueil du jeune enfant. Permettre aux parents de disposer de modes de garde de qualité pour les moins de 6 ans. Le département assure l'agrément des assistantes maternelles et des structures de garde collective. Contact votre mairie.
Développement économique local. Sous condition, conseil et aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Accompagnement des exploitations agricoles et des structures collectives. Economie.gironde.fr.
Transport et mobilité. Réseau de cars interurbains Transgironde avec une tarification à partir de 1,80 € le voyage. Développement des aires de covoiturage. Franchissement de l'estuaire en ferry. Détails sur transgironde.fr.
Route. Entretien de 6500 km de route, dont 350 de pistes cyclables. Service d'intervention 24 heures sur 24. Informations, travaux sur transgironde.fr.
Environnement. Préservation des espaces naturels sensibles et accueil du public sur les sites. gironde.fr/nature. Réduction des déchets. Développement du compostage. Informations sur ecomatisme.fr. Ecomatisme au pluriel.
Sport, loisirs, culture, citoyenneté. Favoriser l'épanouissement personnel et la vie collective. Soutien aux associations sportives et culturelles. Sensibilisation au sport. Soutien aux manifestations culturelles. Développement de la fréquentation des bibliothèques et médiathèques. sport.gironde.fr. culture.gironde.fr.
Jeunesse. Accompagnement des 18-25 ans en difficulté. Entre parenthèses, prévention, insertion sociale, etc. Fermez la parenthèse. Aide financière. Construction et entretien des 104 collèges, bourses, cantines scolaires. Conseil départemental des jeunes, apprentissage de la citoyenneté à travers des actions concrètes améliorant la vie des collégiens. gironde.fr/jeunesse.
Numérique. Développement de l'accès à Internet et soutien à son usage. Mise à disposition de données réutilisables librement. Information de points, ressourcerie, datalocal.fr.
Le département de la Gironde, parallèlement à ses efforts d'investissement en matière de haut débit pour tous les Girondins, développe une offre de services en ligne afin d'apporter un meilleur service. Gironde.fr. Accessible 24 heures sur 24.
À la découverte, tête de Gironde, migrants, réfugiés, 5 siècles d'enrichissement mutuel. Article illustré par une photographie de Manuel Diaz, avec la légende « Nous avons le choix, mourir debout ou renaître ». L'actualité jette une lumière crue sur la situation des réfugiés. Entre accueil généreux et tentation de fermeture des frontières, les nations de l'Union européenne tergiversent. Dans notre département, l'histoire prouve combien l'arrivée des populations étrangères a contribué au dynamisme culturel, économique et social des villes comme des territoires ruraux. Rencontre avec Manuel Dias, vice-président de la Ligue des droits de l'homme de la Gironde.
Manuel Dias, seconde le président de la Ligue des droits de l'homme de la Gironde. Son rôle à lui, c'est de transmettre l'histoire et la mémoire d'un mouvement humaniste connu et reconnu. C'est en historien très éclairé que s'exprime Manuel Dias, également président du Réseau Aquitain pour l'histoire et la mémoire de l'immigration. Il ne cherche pas le politiquement correct, ni ne cultive l'art du slalom diplomatique. Sans remonter à la présence anglaise, comment ne pas considérer que notre région, que notre département, que Bordeaux doivent une très grande part de leur rayonnement et de leur personnalité contemporaine aux mouvements migratoires qui les ont profondément transformés. Bordeaux est même, après Marseille et Paris, la troisième ville métisse de France, même si cela n'est guère revendiqué. Des Juifs ibériques aux rapatriés. Manuel Dias déroule les fils d'une histoire faite de mouvements, souvent tus ou peu reconnus. Au XVe siècle, l'Aquitaine a vu arriver de très nombreux Juifs issus d'Espagne et du Portugal, chassés par l'Inquisition catholique. Très vite, ces exilés, lettrés, cultivés et travailleurs vont contribuer à la montée en puissance des ports de Bayonne et de Bordeaux. Pour autant, et l'on doit à ces migrants en particulier, l'arrivée du chocolat dans notre pays ou encore l'essor du nombre d'établissements financiers et d'entreprises, il faut attendre 1806 pour que Napoléon leur reconnaisse le statut de citoyen juif de France. Au XIXe siècle, ce sont des milliers d'Espagnols qui rejoignent le Sud-Ouest, fuyant les guerres liées aux crises du régime royal. Une partie de l'élite du pays s'installe en Gironde, dont le plus célèbre représentant reste le peintre Francisco de Goya. Manuel Dias poursuit. Au-delà du fort mouvement d'immigration issue d'Afrique, en Gironde, dès le début du XXe siècle, liées aux colonies d'alors, les années 1920 et 1930 voient affluer en Aquitaine des milliers d'Italiens qui fuient le fascisme et la répression des chemises noires de Mussolini. Nombre d'entre eux s'installent en Sud-Gironde et ils deviendront souvent ouvriers agricoles. Durant la même période, Bordeaux et Biarritz accueillent des centaines de Portugais qui veulent échapper à une dictature qui frappera le pays durant 50 ans. Parmi eux, on compte Bernardino Machado, président du Portugal entre 1925 et 1926, mais aussi le grand écrivain Aquilino Ribeiro. Déjà, la peur de l'autre et la harangue des extrémistes ont fait que les Italiens en particulier, comme les Espagnols plus tard, ont subi un racisme très violent et fréquent, précise Manuel Dias. De fait, en 1938-1939, lorsque la République espagnole tombe, plus de 500 000 réfugiés passent les Pyrénées pour s'installer principalement à Toulouse, Perpignan et Bordeaux. Une grande communauté de républicains espagnols va vivre dans le quartier des Capucins et de nombreux Girondins se souviennent des camps, celui de la caserne Niel ou de Beaudésert à Mérignac, où avaient été regroupés les réfugiés. Des Espagnols qui joueront un rôle déterminant au sein de la résistance dans tout le Grand Sud-Ouest, durant la Seconde Guerre mondiale. Et comme il ne faut pas réécrire l'histoire, Manuel Dias poursuit. Comment ne pas souligner qu'entre 1939 et 1940, notre pays a vécu au rythme de l'exode massif de près de 3 millions d'Européens, fuyant l'avancée des nazis. Certes, les Français fuyaient vers le sud, et la zone encore libre, mais avec eux, on comptait des Polonais, des Luxembourgeois ou encore des Allemands opposés au régime d'Hitler. Faut-il rappeler que Bordeaux, devenue capitale, a vu sa population alors multipliée par 3, ou la Gironde, la sienne multipliée au moins par 2. Il a fallu faire face dans ces conditions extrêmes. Enfin, la période de décolonisation des années 1950 et 1960 a été celle des rapatriés d'Afrique du Nord et d'Indochine, dont nous savons que l'intégration n'a pas été simple. C'est un épisode qui n'est d'ailleurs toujours pas complètement assumé. Avoir peur ou faire preuve de courage. Passé l'épisode migratoire et douloureux des Boat People, celui des réfugiés vietnamiens qui, fuyant leur pays dans les années 1980, sont venus pour certains s'installer en France, nous sommes donc devant une nouvelle ère migratoire d'ampleur. Majoritairement syriens ou irakiens, les réfugiés frappent à la porte de l'Europe. Certains ont pu entrer, en particulier en Allemagne. D'autres restent derrière des frontières qui se referment. La vie de Manuel Diaz est tranchée, sans ambiguïté. Ce que nous vivons, ce drame de part et d'autre, est la conséquence de nos politiques liées au Moyen-Orient. Nous y avons soutenu des dirigeants pour des raisons de stratégie économique ou politique, sans mesurer ce qui allait se passer. Aujourd'hui, nous sommes face à nos responsabilités. Où fléchir et cultiver cette peur de l'autre, mais qui est aussi largement la peur de se regarder soi-même dans un miroir? Où faire preuve de courage et savoir accueillir les réfugiés? Nous sommes un pays vieillissant, avec plus de 35% de la population qui a aujourd'hui plus de 65 ans. Dans 10 ans, 43%. Les nations jeunes, et qui connaissent un vrai essor, sont aussi des pays où le métissage est un atout, comme le Brésil, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Faut-il regretter que 32% des Français soient d'origine étrangère? Nous ne pouvons nous revendiquer la patrie des droits de l'homme et l'Europe en appeler à des valeurs humanistes et de générosité, tout en nous étonnant que nos discours fassent rêver des peuples qui souffrent. Nous avons le choix, mourir debout ou renaître.
Le département au rendez-vous des solidarités. Sarraoui, 11 juillet 2015, le président du conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Glaise, fait livrer de l'eau potable aux 130 réfugiés politiques sahraouis qui vivent dans un camp de fortune à Bordeaux, près du pont Saint-Jean. Depuis, la mobilisation des pouvoirs publics a permis de reloger 57 de ces exilés qui ont fui l'insécurité régnante au Sahara occidental. Le département entend rester mobilisé et participe à la création d'un lieu d'hébergement temporaire. 41 000 euros sont investis dans la mise en place d'une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile placée sous la gestion d'Emmaüs Gironde. Réfugiés, 10 septembre 2015. Face au drame que rencontrent les migrants en majorité d'origine syrienne, se pressant aux portes de l'Europe, le département lance la plateforme collaborative gironde.solidarité-réfugiés.fr. Entre guillemets, la Gironde est appelée à contribuer à l'élan collectif d'accueil des réfugiés en Europe et en France. Ce site collaboratif en est la traduction concrète avec un objectif, être efficace et réussir l'accueil girondin, point d'exclamation, fermez les guillemets, déclare Jean-Luc Glaise. Le ton est donné pour présenter un site ouvert aux initiatives de tous, citoyens, associations, entreprises et communes. En outre, le président a mobilisé les personnels du département sur la situation particulière des réfugiés, fait identifier les bâtiments inoccupés pouvant servir à l'accueil, fait élaborer un référentiel de l'accueillant et de l'aidant, et enfin demandé la mise en place d'un parcours social du réfugié qui pourra être utilisé au cas par cas.
Cet encart est illustré par une photographie de Jean-Luc Glaise remettant aux réfugiés sahraouis des cuves d'eau potable. Moulins de Gironde, à tout vent. Les moulins intriguent, attirent, qu'ils soient à eau ou à force motrice du vent. Délaissés pendant les décennies qui suivirent la révolution industrielle, nombre d'entre eux sont tombés en ruine. Quelques-uns ont été relevés par des inconditionnels du patrimoine, consacrant beaucoup de temps et d'argent afin de satisfaire leur passion pour un univers révolu.
Point de vue. Les archives sont au cœur de nos compétences culturelles et le reste. Aussi, nous nous sommes mobilisés pour les moderniser, notamment avec l'outil numérique, incontournable dans la conservation des documents et dans la consultation par le public. Nous avons également développé différentes actions afin de rendre accessible au plus grand nombre la multitude des fonds documentaires. L'organisation d'expositions thématiques, comme celle sur les moulins, illustre parfaitement cette démarche. Ainsi, la mémoire collective de la Gironde peut être partagée par tous.
Point de vue signé par Isabelle Dexpert, vice-présidente chargée de la jeunesse, de la culture, du sport et de la vie associative.
On recensait plus de 800 moulins au début du XIXe siècle en Gironde. On les trouvait sur tous les cours d'eau et sites vantés du département, témoins d'un monde au travail. Cette activité, dont on trouve des traces dans notre département dès le XIIe siècle, a laissé des témoignages dans la toponymie, par exemple avec le nom du village de Moulis et sur la même commune, le château Moulin à Vent, ou bien encore sur la commune de Maco, le lieu dit Les Trois Moulins et le château du même nom, etc. De même, on peut trouver la racine de nombreux patronymes locaux liés au travail de la meunerie, comme Meunier, Le Meunier, Molinier, Moulinier, Meunier. Si chaque région de France a développé des formes architecturales propres, la Gironde présente une certaine unité de forme, une structure interne ou extérieure assez identique pour nos moulins à vent, exclusivement fariniers, les différences portant sur des détails mineurs. Ils pouvaient être isolés ou groupés pour ne rien perdre du zéphyr, comme à Montagne-Saint-Émilion, où les cinq moulins de Calon, dont deux restaurés, présentent un bâti très soigné, une tour cylindrique élancée construite en pierre de bel appareil calcaire ou en moellon recouvert de crépi. Deux portes d'entrée opposées permettaient l'accès au moulin, quelle que soit la position des ailes. Chaînage, encadrement des portes et fenêtres étroites sont en pierre de taille. La tour, coiffée d'un chapiteau conique mobile, porte le grand rouet sur lequel sont fixées les ailes. Sur l'arrière des ailes se situe une grande perche qui descend jusqu'au sol. Grâce à un cabestan, comme sur un bateau, le meunier peut la diriger pour mieux prendre le vent selon son orientation. Pour ne rien perdre de l'énergie éolienne, les ailes à barreaux sont comme une hélice légèrement inclinée pour une meilleure prise au vent. À côté du moulin, on pouvait trouver la maison du meunier, une écurie qui hébergeait mulets ou chevaux destinés au transport des céréales et farines. Mais aussi au fil de l'eau. Les moulins à eau construits eux aussi à partir du XIIe siècle sont, quant à eux, beaucoup plus diversifiés, que ce soit dans leur architecture ou dans leur finalité, puisqu'ils étaient destinés à la minoterie, mais également au foulon, au chocolat, comme le fut le moulin de Montgaillard à Gradignan. Ils jalonnent les cours d'eau de la Gironde. 230 moulins à eau, pour le seul entre-deux-mers, étaient recensés à la fin du XVIIIe siècle. Sur les lignes de combat entre Français et Anglais durant la guerre de Cent Ans, on trouve des moulins fortifiés spectaculaires, remarquables, comme celui de Loubens, avec une double rangée d'arcades en façade, ancienne propriété des bénédictins de la Réole. Il y a aussi celui de Bagasse, un bloc carré, flanqué d'échauguettes rondes, accessible par un pont-levis, remplacé aujourd'hui par une passerelle. Ils évoquent sur le Drô des temps troublés. Ce dernier servit à moudre les céréales, puis le foulon pour l'apprêt des draps et à battre la laine. Ils figurent parmi les plus beaux moulins de leur genre en Guyenne. Nous ne pouvons tous les signaler, mais on peut noter le moulin de Noès à Pessac, au centre d'une ancienne propriété agricole expérimentale, ou encore le moulin de Laborie à Blasimont, propriété du département de la Gironde, sans oublier, toujours à Blasimont, le moulin de la Barthe. Rendons grâce aux particuliers, municipalités ou départements qui ont permis, par leur investissement, de restaurer ou entretenir ces témoignages et d'en permettre la visite.
Illustration de cet article, une photo en pleine page du moulin de Vinsac, une photo du moulin fortifié de Bagasse, ainsi que deux gravures de Léo Drouin, le moulin de Labarthe à Blasimont et le moulin de Pils à Bassane, dans Léo Drouin, La Guyenne militaire, librairie Didron, planche 12.
Archives départementales, en savoir plus. Un pôle numérique. Un site internet dédié archives.gironde.fr. Un outil de stockage de 6 millions d'images, 2,7 millions sur Internet, 3,2 millions sur intranet. Exposition au cœur des moulins. Salle des voûtes des archives départementales, 72-78 cours Balguerich-Stutenberg, du 13 novembre 2015 au 6 mars, du lundi au vendredi de 9h à 17h, ouverte samedi et dimanche de 14h à 18h. Visite guidée mardi à 10h. Deux sites. 72-78 cours Balguerich-Stutenberg, ouvert au public, 13 rue d'Avio, adresse historique des archives à Bordeaux. Ouverture au public, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, accueil en salle de lecture, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 15h.
Randonnée. La boucle de Grignols, 21 km de distance, 6h30 de parcours, une variante de 12 km, à vélo. L'amateur de vélocross peut s'y aventurer, mais sous réserve de respect des randonneurs à pied, voire à cheval. Point de départ de la randonnée, place de Grignols ou parking du Château d'Eau au centre-bourg. Plus d'infos sur le site tourisme-gironde.fr/randonnée-gironde.
Le village de Grignols, traversé par des affluents de la Garonne et du Siron, bénéficie d'une position géographique favorable à la pratique de la randonnée. Sur ces sentiers, le dépaysement et la végétation sauvage sont des compagnons de marche. Le circuit met en valeur des sites protégés. Situé au sud-est du département, la boucle offre à perte de vue collines, vallées, clochers d'églises, châteaux. Arrosée par le Lisos, elle serpente, bordée par des vignes, des polycultures et des bois. Cette randonnée permet de découvrir des paysages variés avec des dénivelés, des chemins en sous-bois, des petites routes de campagne, de beaux panoramas.
Véloroute, la Vélodyssée, tout le littoral à vélo. La piste Vélodyssée qui s'étend de la Norvège au Portugal offre près de 8200 km de réseau cyclable, dont 1250 en France et 178 en Gironde. Le long du littoral atlantique, rythmé par une nature originelle, unique, elle invite au dépaysement.
Inaugurée en 2012, la Vélodyssée, plus longue véloroute ouverte dans l'Hexagone, est devenue un circuit de loisirs très fréquenté. Initiative collective prise par les départements et les régions sur l'inspiration de l'Europe qui a élaboré le projet et la mise en œuvre, elle s'est avérée un pari touristique gagnant, un succès grandeur nature qui séduit les voyageurs européens sensibles à l'écotourisme. Balisée, la Vélodyssée décline de l'embouchure de la Gironde à l'étang de Cazaux, des paysages insolites, à admirer en famille ou en solo. Ainsi, phare de Cordouan, plage des cordons dunaires de la Côte d'Argent, étang d'eau douce, réserve naturelle, forêt de pins maritimes, ports ostréicoles pittoresques du bassin d'Arcachon, dunes du Pilat et décrochages vers Bordeaux et le canal de Garonne, constituent le programme détente ou culturel du promeneur. Un tronçon plaisance, le long duquel hébergeurs, loueurs de vélos et offices de tourisme adhérents à la marque Accueil Vélo, label national, sont à disposition pour assister et conseiller les usagers. Rien de tel pour s'octroyer une belle escapade en roue libre. En savoir plus, www.lavelodyssee.com ou bien www.tourisme-gironde.fr.
Producteur de Gironde, le safran, une culture en or. Le département soutient la filière agricole girondine en accompagnant en particulier les producteurs faisant le choix de la diversification et de l'agriculture raisonnée. C'est en ce sens qu'il a pu apporter son soutien logistique à Lauriane Gouillon. Renouant avec une tradition ancienne, comme plusieurs agriculteurs girondins, la jeune femme s'est lancée dans la production du safran, une épice rare et précieuse qu'elle cultive avec passion.
« Certains m'ont dit que j'étais folle, raconte Lauriane Gouillon, sourire aux lèvres. La production dans laquelle s'est lancée cette jeune agricultrice a en effet de quoi surprendre. Issue d'une magnifique fleur mauve, au cœur de laquelle se détache le rouge de son pistil, le safran évoque plutôt, pour un non-initié, les goûts et les senteurs du Moyen-Orient ou de l'Asie. L'épice a pourtant été cultivée en France dès le Moyen-Âge, y compris en Gironde. Des traces ont été trouvées à Fargues, Saint-Émilion, dans les bastides médiévales, raconte Lauriane Gouillon. C'était une épice très recherchée qui servait de monnaie d'échange, de colorant, puis en peinture et en cuisine. Délaissée au cours du XXe siècle, elle connaît depuis les années 2000 un retour en grâce dans nos assiettes. Il faut dire que ses qualités ont de quoi séduire. Le safran, explique Lauriane Gouillon, est un formidable exhausteur de goût et possède de nombreuses propriétés médicinales, antispasmodiques, anti-vieillissement, anti-douleur. Plusieurs agriculteurs girondins ne s'y sont pas trompés et ont renoué avec cette culture. Lauriane Gouillon, elle, a décidé de tenter l'expérience en 2013, lorsqu'elle a repris l'exploitation viticole de ses parents. « Car cette culture est naturelle et s'allie très bien avec la vigne », précise la jeune femme. Une initiative que le département est venu soutenir logistiquement en accueillant en particulier un stand de Lauriane dans le cadre de la Foire internationale de Bordeaux 2015. Un savoir-faire local. Planté l'été pour une récolte juste après les vendanges, le Crocus sativus nécessite une attention nourrie de passion et de patience. Tout est en effet réalisé à la main, du désherbage au prélèvement des trois précieux filaments rouges formant son pistil. Eux et seulement eux, tient à préciser la jeune femme. C'est tout le savoir-faire français. Pour qu'il révèle toute sa saveur, le safran est ensuite placé dans un déshydrateur durant un temps propre à chaque producteur, puis dans un bocal hermétique pendant un mois. Ce travail de longue haleine est la rareté du produit. Il faut 150 à 200 fleurs pour obtenir un gramme de safran. Lui ont valu le surnom d'or rouge. Son prix au kilo dépassant celui du métal précieux. Mais pour Lauriane Gouillon, ses efforts en valent la peine. Le matin, dit-elle, quand on se lève et qu'on voit le champ bleu, c'est magique.
Pour visiter la safranière, rendez-vous pour un week-end portes ouvertes les 24 et 25 octobre, mais aussi toute l'année de 17h à 20h en semaine et de 9h à 12h le samedi ou sur rendez-vous. Terra Safran, TE2R'A plus loin Safran, 161 passage Mathieu Hérault, 33750 Nérigent. Téléphone 06 62 65 15 14. www.terrasafran.com
Les conseils culinaires de Lauriane. Pour avoir la garantie d'un safran de qualité, achetez-les en filaments plutôt qu'en poudre. Il faudra ensuite le faire infuser de 30 minutes à 1 heure. Dans de la crème fraîche pour sublimer vos moules, dans du beurre fondu pour vos madeleines, mais aussi le lait de vos gâteaux, le jus de vos viandes. Comptez 1 ou 2 stigmates par personne pour les sauces et 2 pour les plats salés. 5 stigmates pour 250 g de riz ou de pâtes et 6 à 8 par litre de lait pour les desserts. Recette madeleine au safran pour une grande plaque de madeleine. Faire fondre 100 g de beurre et y faire infuser 10 filaments de safran durant au minimum 30 minutes. Dans un saladier, mélangez 100 g de farine, 80 g de sucre, 3 œufs, un demi-sachet de levure chimique, puis ajoutez le beurre fondu safrané et mélangez. Mettre dans les moules et faire cuire 10 minutes à 220 degrés, laisser refroidir et déguster. Le département aide les agriculteurs. Le département accompagne les agriculteurs girondins sur leurs investissements immobiliers, matériels ou immatériels, privilégiant les projets liés aux démarches de production de qualité. Sur leurs démarches environnementales, irrigation économe par exemple. Sur l'installation et le développement des exploitations, en particulier auprès des jeunes agriculteurs. Informations détaillées sur gironde.fr/filière agricole.
Tribune libre. Conformément à la loi, ces pages sont réservées à l'expression des groupes politiques départementaux. À ce titre, le Conseil départemental attribue un espace proportionnel à la représentativité des différents groupes qui composent l'Assemblée. Les propos publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs signataires. Groupe socialiste.
Notre engagement, la solidarité. La loi, nouvelle organisation territoriale de la République, a confirmé la vocation du département, la pleine et entière compétence en matière de solidarité humaine et territoriale. Pour mener à bien cette politique, nous nous articulerons avec la région, les communes, les communautés de communes et l'État, toujours avec l'objectif d'être au plus près de vous pour répondre à vos attentes. C'est pour toutes ces raisons que nous agissons et continuerons d'agir pour vous. En entretenant et en rénovant les collèges pour permettre à nos enfants de pouvoir s'épanouir dans les meilleures conditions, comme à Bordeaux, avec la rénovation du collège Chevrus. En participant à la création d'établissements d'hébergement pour personnes âgées et ainsi permettre à nos aînés de vivre leur retraite le plus sereinement possible, comme à Pessac, avec la création du Jardin des Alouettes. À Saint-Seurin-de-Cadourne, dans le Nord-Médoc, en aidant les municipalités à conserver et développer leurs infrastructures et ainsi garantir l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, et comme par le passé, nous sommes sollicités pour venir en aide à des populations qui font face à la guerre et à la haine. Notre majorité a pris des dispositions pour agir concrètement et accompagner les particuliers, les associations et les différentes communes qui souhaitent s'investir. Nous avons créé une plateforme collaborative solidaire pour assumer notre rôle sur le territoire, celui de créer et de coordonner les nombreuses initiatives pour répondre aux besoins des réfugiés. Nous avons aussi choisi de mettre en place un parcours social du réfugié au cas par cas pour que celui-ci puisse s'intégrer de façon pérenne sur notre territoire. Historiquement, la Gironde a toujours su honorer sa tradition d'accueil et d'intégration tout en se préoccupant de ses administrés au quotidien. Parce que les solidarités et l'humanité sont la raison d'être de notre collectivité et l'essence même de notre engagement politique, nous assumons et assumerons notre devoir envers ces populations, sans oublier notre devoir envers vous et envers notre territoire. Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. » Groupe politique socialiste 05 56 99 35 78 groupe-ps@gironde.fr. Retrouvez l'information du groupe politique socialiste du département de la Gironde sur www.cg33-ps.net.
Europe Écologie Les Verts.
Des engagements concrets. Après 6 mois de mandat, l'heure est à un premier bilan pour les nouveaux élus et élus écologistes du département. Lors de l'Assemblée départementale de juin, notre groupe a porté avec succès une motion pour l'élargissement du périmètre de sécurité autour de la centrale du Blayais à 80 km, montrant ainsi la volonté du département de mieux contrôler la filière nucléaire. Nous avons aussi fait voter un vœu engageant le département dans la démarche de désinvestissement des énergies fossiles. Ces deux dossiers feront l'objet d'une vigilance accrue avec l'échéance de la COP21 en décembre. L'actualité de l'été et de la rentrée a aussi été marquée par des situations d'urgence qui continuent de nous alerter. Sur le plan climatique, avec les incendies en Gironde, mais aussi sur le plan social, avec le drame des réfugiés, dans un contexte économique de rentrée difficile pour les classes modestes. C'est donc avec gravité que nous abordons le dernier trimestre 2015 pour servir au mieux les Girondins. Europe, écologie, les Verts, contact 05 56 99 67 03. Notre site internet élu au pluriel -gironde.eelv.fr/. Facebook www.facebook.com/eelvcdgironde en un seul mot. Twitter @eulusseelv_cd33.
Front national. Les nôtres avant les autres.
Alors que la majorité socialiste du conseil départemental met en place de lourds moyens pour l'accueil des clandestins, la misère continue de gagner nos compatriotes girondins. Manque de logements sociaux, mais les clandestins en bénéficieront. Manque d'emplois, mais ils auront des formations pour en obtenir. Explosion des dépenses de RSA, mais ils pourront en bénéficier. Remboursement de la sécu au lance-pierre, mais ils bénéficieront d'une prise en charge à 100%. Hausse continue de la fiscalité, mais nous allons assumer une immigration dont on ignore le nombre. Ces mesures se sont accentuées depuis la noyade terrible de ce jeune garçon. Pourtant, aider les clandestins, c'est les encourager à traverser la Méditerranée et donc provoquer de nouvelles noyades. Une seule solution, convaincre les monarchies pétrolières du Golfe d'accueillir les réfugiés. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'en ont accepté aucun. Sonia Colmine, Grégoire de Fourna, élu Front National, retrouvez-nous sur Facebook et sur www.fn-medoc.fr. Téléphone 07 82 32 50 94.
Gironde à venir.
Agir contre la baisse historique des dotations de l'État, l'affaire de tous. L'État réduit de 30% les dotations accordées aux collectivités territoriales d'ici à 2017. Pour le département de la Gironde, c'est une perte sèche de 85 millions d'euros. Or, les collectivités territoriales sont confrontées à des difficultés financières inédites. Recettes en baisse, charges en hausse. L'effet ciseau met en péril l'exercice des missions du service public, y compris les plus vitales pour les Girondins. Soyons clairs, dire non à l'effondrement des dotations de l'État, c'est protéger les citoyens et les PME contre la pression fiscale, la chute des investissements indispensables à la reprise économique et à l'inversion de la courbe du chômage, le déclin des services publics de proximité. Dans ce contexte, le groupe Gironde Avenir a proposé une motion lors de la séance plénière du 25 juin 2015 afin d'alerter le gouvernement sur l'impact désastreux de l'austérité financière en Gironde. Nous avons été sidérés par la posture politicienne de la majorité socialiste qui a voté contre cette motion d'intérêt général, pourtant coécrite avec le cabinet du président du département. Entre l'intérêt prioritaire des Girondins et l'intérêt étriqué du PS, la majorité a choisi son camp. Malgré cette déconvenue, nous ne nous résignerons pas. Nous avons engagé une réflexion avec l'Association des départements de France pour obtenir le réexamen du volume et du rythme de la baisse des dotations. Le 19 septembre dernier, nous avons manifesté sur le terrain avec les maires de Gironde, au-delà des clivages gauche-droite, pour dire non à l'érosion massive des dotations de l'État. Nous sommes allés défendre les intérêts de tous les Girondins sans exception, et nous resterons mobilisés tant que l'intérêt de la Gironde ne sera pas entendu. Gironde Avenir, groupe d'opposition de la droite et du centre, www.gironde-avenir.org, 05 56 99 57 87, 3540. Retrouvez notre activité sur Twitter et Facebook.
Agenda, voici une sélection d'événements forts aux quatre coins de la Gironde.
Observatoire Curiosité, CAUE de la Gironde. Pour sortir des clichés, consultez l'Observatoire Curiosité du CAUE. Les maisons individuelles sélectionnées révèlent les savoir-faire des architectes, urbanistes et paysagistes. Vous cherchez des inspirations pour votre projet d'habitation? N'hésitez plus. Consultez quelques exemples sur le site internet du CAUE et ne ratez pas le label Curiosité 2016. Une nouvelle occasion de visiter l'architecture contemporaine différemment. www.caueGironde.com 05 56 97 81 89.
Mélismel, du 5 octobre au 14 novembre, Saint-Denis-de-Pile et en tournée. Avec son deuxième album « Droit dans la gueule du loup », Mélismel plonge la chanson française dans un rock révolté qui dit fort nos colères, mais aussi nos joies, traduit nos forces et nos faiblesses. Dans le cadre des petites scènes organisées par l'IDAC et ses partenaires, l'artiste est en résidence à l'Accordeur, à Saint-Denis-de-Pile, avant d'entamer une tournée girondine du 9 octobre au 14 novembre à Saint-Denis-de-Pile, Marcheprime, Salles, Gujan-Mestras, Bègles, Civrac-de-Blaye, Castillon-la-Bataille, Saint-Jean-d'Illiac et Noaillac. Durée des spectacles, 1 heure. Tarif, 6 euros. IDAC, au téléphone, 05 56 17 36 36. www.idac.net. accueil@idac.net.
Croisière sur l'estuaire, 25 octobre au 1er novembre, avec les balades sur l'estuaire, profitez d'une navigation commentée au cœur de ce joyau incroyable et cap sur l'île de Patiras. Départ assuré à partir de 20 personnes. Téléphone 05 57 42 12 09 www.tourisme-blaye.com info@tourisme-blaye.com.
Mascaré, Saint-Germain-la-Rivière, 28 octobre et 14 novembre. Panorama sur le Mascaré, c'est la sortie nature atypique que propose Corentin Sauvager, animateur nature, qui, profitant de ce phénomène unique, fera vivre à tous des moments inoubliables. Office de tourisme du Front Sadé, 06 86 06 44 78. Sauvager, c@yahoo.fr. Sauvager s'appelle S-A-U-V-A-G-E-T.
La Terre a-t-elle perdu la boule ? Bordeaux, du 5 au 7 novembre. Le changement climatique est au programme de la 5e édition des Tribunes de la Presse, organisées au Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, TNBA, et à l'IJBA, École de Journalisme. Un mois avant la Conférence internationale de Paris, voilà l'occasion de faire le point sur une question brûlante.
Traces et indices, Bruges, 7 novembre. La réserve naturelle de Bruges et l'association CEPANSO, avec le soutien du département, accueillent l'événement « Reconnaissance des traces et des indices ». Renseignements et réservations 05 56 57 09 89.
Visite viticole Sauterne, 7 et 8 novembre. Week-end portes ouvertes pour les 51 châteaux de Sauterne et Barsac. Les viticulteurs vous invitent à une rencontre unique avec des vins d'exception et ceux qui les produisent. Pour l'occasion, l'Office de tourisme Sauterne-Graves-Landes-Girondine organise des circuits découvertes gratuits. Départ des circuits depuis le château Fillot. 11h, 14h30 et 16h. 05 56 63 68 00 www.sauterne-barsac.com www.tourisme-sauterne-grave.com.
Salon Obart, O-B-A-R-T, Bordeaux, du 13 au 15 novembre. Obart réunit plus de 100 artisans d'art au hangar 14 quai des Chartrons, pariant sur un mélange subtil d'authenticité et de savoir-faire. Bijoux, accessoires, luminaires, mobilier, créations textiles, à découvrir sans modération. www.salon-obart.com/bordeaux.
Perles de BD. Le Teich, 14 novembre. La salle des fêtes du Teich accueille comme chaque année son salon de la bande dessinée, Perles de BD, avec auteur, dessinateur, scénariste, dédicace et initiation à l'art de la BD au programme. Pôle Culture de l'Éclat, au 05 56 22 33 60 ou www.le-teich-tourisme.com.
Film d'histoire, Pessac, du 16 au 23 novembre. Le cinéma Jean Eustache accueille la 26e édition du Festival du film international d'histoire de Pessac, avec long métrage, débat et échange autour du thème « Un si proche Orient ». Une occasion de mieux comprendre le XXe siècle dans ses progrès et ses errements. 05 56 46 25 43 www.cinema-histoire-pessac.com.
Lettres du Monde, 20 et 29 novembre, Bordeaux. L'association Lettres du Monde organise à Bordeaux la 12e édition de Lettres du Monde, Haute Tension, Festival des Littératures du Monde. www.lettresdumonde33.com, lettres au pluriel.
Stop au gaspillage alimentaire, du 21 au 29 novembre, partout en Gironde. À l'occasion de la Semaine européenne sur la prévention des déchets, le département vous donne astuces et conseils pour ne plus jeter de nourriture et faire des économies. Plus d'infos sur écomatisme au pluriel.fr.
Livre en citadelle, Blaye, 5 et 6 décembre. Dans la citadelle inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, illustrateur, auteur jeunesse, mais également écrivain pour les grands, orchestre deux jours entiers dédiés aux amoureux du livre et de la lecture. Samedi, de 14h à 18h, et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 05 57 42 12 09 préface33@orange.fr préface-blaye@orange.fr 06 48 06 26 32.
Ornithologie, 12 et 13 décembre, Le Teich. L'équipe du parc ornithologique du Teich vous invite à un week-end d'initiation pour découvrir les oiseaux hivernants du bassin, pour identifier, repérer et contempler la vie d'hôtes permanents et éphémères. Rejoignez la Maison de la Nature du bassin d'Arcachon. 05 56 22 80 93 www.reserve-ornithologique-du-teich.com.
Foire au Chapon, 20 et 21 décembre, Grignols. Les allées Saint-Michel accueillent une nouvelle édition de la Foire au Chapon de Grignols, qui attire un public toujours plus nombreux à l'avant-veille des fêtes de fin d'année. Musique, repas et animation au programme. 05 56 25 50 00 ou 05 56 25 55 77. www.grignols.fr.
Instantané Gironde, concours photo. Dernière page du magazine, illustrée par une photo prise par le SDIS 33 le 24 juillet 2015.
Le 24 juillet, un incendie de grande ampleur se déclenche. 170 sapeurs-pompiers girondins sont mobilisés. Plus de 600 hectares de forêt sont partis en fumée. Pour participer au concours photo, merci d'adresser votre photo à dgsd-dcip@gironde.fr avant le 1er décembre 2015. La photo retenue sera publiée ici. Le concours est doté en chèque cadeau. Premier prix, 300 euros. Deuxième prix, 200 euros. Troisième prix, 100 euros. Détails complets sur gironde.fr/concours-photo.
Le magazine Gironde Mag est édité par le département de la Gironde, direction communication, information et partenariat, 1 Esplanade Charles de Gaulle, CS 71 223, 33074 Bordeaux CEDEX. Téléphone 05 56 99 33 33. Directeur de la publication Jean-Luc Glaise. Co-directeur Mathieu Rouveyre, Laurent Carrier. Rédacteur en chef Didier Beaujardin. Coordination, direction communication, information et partenariat. Rédaction, Didier Beaujardin, Sophie Breton, Laurent Brun, Stéphanie Coy, Bérangère Héroir, Laure Espieux, Julie Martin, Sophie Poirier, Carole Ratier, Manuel Rullier, Richard Zéboulon. Crédit photo, Anaka, Dina Bobos, David Blin FFA, J. Damaz, ADT Gironde, Anne-Sophie Gacoin, Globe Théâtre, Sébastien Leclésio, Mister D. Arrobaz, Sophie Poirier, Paul Robin, Christian Verrouille, Richard Zébulon, Archives départementales 33, CAUE Gironde, Photothèque du département, Région Aquitaine, SDIS 33, Service du département, Sud-Ouest. Création graphique, Agence CEPA Bordeaux, Conception et mise en page, Scoop Communication, Impression sur papier, FSC recyclé 100%, Imaï graphique à Laval, dépôt légal à la parution, tirage 559 500 exemplaires, ISSN 11 41 59 32, Gironde Mag est distribué gratuitement dans tous les foyers girondins, imprimé en braille. Ce magazine est également réalisé en version audio par le Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, GIAA Sésame, délégation d'Aquitaine, 14 rue de la Réole, 33800 Bordeaux. Si vous souhaitez vous aussi recevoir Gironde Mag, téléphonez au 05 56 99 33 33, poste 37 24.